VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à toutes et à tous, le monde aujourd'hui, VOA Afrique, édition du lundi. Mardi 15 février 2022, en direct de Washington, Idrissa Sedoudia
et Jacques Aristide.
Pour commencer, les titres.
7 soldats sénégalais ont été libérés hier par des rebelles de Casamance en Gambie voisine.
Au Soudan, 2 manifestants ont été tués dans des défilés contre le pouvoir militaire, portant le total à 81 depuis le putsch du général Abdel Fattah al-Burhan le 25 octobre.
Les États-Unis décident de déplacer leur ambassade en Ukraine de Kiev à Lviv dans l'ouest du pays.
Mais la diplomatie semble conserver une chance pour éviter la guerre en Ukraine.
Et ne manquez pas non plus notre page sport ainsi que la Minute Éco.
Pour l'instant, le journal.
Des rebelles de Casamance, dans le sud du Sénégal, ont libéré hier 7 soldats sénégalais qu'ils détenaient en Gambie depuis un affrontement meurtrier le 24 janvier dernier. Le point avec Abdourahmane Dia.
Les soldats sénégalais, membres de la mission ouest-africaine en Gambie, ont été convoyés par des rebelles en un lieu proche du village gambien de Badiagar, où les attendaient des représentants de la CDAO, de l'armée gambienne et de l'organisation catholique italienne Sant'Egidio, médiatrice dans ce conflit vieux d'une quarantaine d'années. L'un des représentants de la CDAO, Claude Condor, a rapporté que le MFDC n'avait réclamé aucune contrepartie. Ces soldats, apparemment en bonne santé, sont partis à bord de véhicules de la Croix-Rouge qui a pu leur rendre visite durant leur captivité. Ils avaient été capturés au cours d'un affrontement le 24 janvier par des hommes du mouvement des forces démocratiques de Casamance. 4 soldats sénégalais avaient été tués selon l'armée sénégalaise. Il s'agit de l'un des plus sérieux accrochages depuis des années. Le chef du MFDC, Salif Sadio, a déclaré la semaine dernière que les soldats sénégalais venus de Gambie avaient traversé la frontière et attaqué ses bases. L'armée sénégalaise a, elle, assuré que la confrontation avait lieu au cours d'une opération contre le trafic de bois sur la frange frontalière avec la Gambie.
Le ministre malien des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop, a démenti des propos que lui a attribués IRNA, l'agence officielle iranienne, sur les sanctions internationales à la suite d'une visite à Téhéran. Il a demandé le retrait de la dépêche publiée dimanche en français par l'agence et selon laquelle M. Diop aurait, lors d'une rencontre le même jour avec le ministre iranien Mohammad al-Zolfigol, présenté l'Iran comme un modèle pour les pays qui veulent s'opposer à l'arrogance mondiale et à leurs sanctions oppressives.
IRNA paraissait avoir supprimé ses propos hier, des propos donc prêtés au chef de la diplomatie malienne. Pour rappel, l'Iran a été soumis à de multiples sanctions depuis 1979, en particulier à cause de ses activités nucléaires. Le Mali est, lui, sous le coup d'un embargo commercial et financier de la CDAO depuis que les militaires au pouvoir sont revenus sur leur engagement initial d'organiser en février 2022 des élections qui auraient ramené les civils à la tête du pays.
Au Soudan, 2 manifestants ont été tués hier à Khartoum lors de nouvelles marches contre le pouvoir militaire et pour la fin des arrestations des opposants au putsch. Le point avec Lionel Gahima.
La 81e victime a succombé hier d'une balle réelle dans la poitrine tirée par les forces de sécurité, quelques heures après l'annonce du décès d'un autre manifestant touché au cou et à la poitrine, selon un syndicat de médecins pro-démocratie. La veille, Mohamed Al-Faki, ancien membre du Conseil souverain, l'un des plus jeunes, a été renvoyé en prison. La semaine dernière, l'ancien ministre Khalid Omer Youssef a également été arrêté. Le nombre de personnes détenues sans inculpation a dépassé la centaine, selon l'association des professionnels soudanais Fer de Lance de la révolte. Afin de protester contre leurs conditions de détention, plusieurs détenus ont entamé une grève de la faim à la prison de Soba, non loin de Khartoum. Les États-Unis ont suspendu 700 millions de dollars d'aide et la Banque mondiale a cessé tous les paiements au Soudan. Les sanctions, menaces et mises en garde n'ont aucun intérêt ni aucune base, a répondu ce week-end le général Abdel Fattah al-Burhan, auteur du coup d'État.
En République démocratique du Congo, le gouvernement a décidé hier, au regard de l'évolution de la pandémie, de lever le couvre-feu décrété en décembre 2020 pour lutter contre la propagation du coronavirus, sauf pour les provinces sous état de siège, à savoir le Nord Kivu et l'Ituri, et il n'impose plus de tests Covid-19 aux voyageurs complètement vaccinés. Le ministre des Médias Patrick Muyaya et porte-parole du gouvernement congolais a cependant souligné que la levée du couvre-feu ne signifie nullement la fin de la pandémie dans le pays.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Les États-Unis ont décidé de déplacer leur ambassade en Ukraine de Kiev à Lviv, dans l'ouest du pays. Décision prise face à l'accélération spectaculaire du déploiement de forces russes à la frontière. Annoncé hier, Anthony Blinken, le chef de la diplomatie américaine, Eric Manirakidza.
Nous sommes en train de relocaliser temporairement les opérations de l'ambassade à Kiev vers Lviv, a déclaré Anthony Blinken dans un communiqué assurant vouloir garantir la sécurité des Américains. L'ambassade restera en contact avec le gouvernement ukrainien, mais nous exhortons fortement tout ressortissant américain encore en Ukraine à quitter le pays immédiatement, a-t-il ajouté. Monsieur Blinken entend ramener le personnel à l'ambassade dès que les conditions le permettront. Nous continuerons aussi nos efforts diplomatiques intenses pour une désescalade de la crise, a précisé le secrétaire d'État. Le personnel de l'ambassade dans la capitale ukrainienne avait déjà été réduit à sa portion congrue ce week-end avec le départ de l'essentiel de leurs diplomates et mis fin au service consulaire à Kiev.
Les Occidentaux et Moscou ont évoqué hier une chance d'issue diplomatique pour écarter le risque d'une guerre en Ukraine et les États-Unis estiment que Vladimir Poutine n'avait pas pris sa décision finale sur le déclenchement d'une invasion.
Il reste une opportunité cruciale pour la diplomatie, ont toutefois souligné le Premier ministre britannique Boris Johnson et le président américain Joe Biden, qui se sont entretenus hier par téléphone, et le chancelier allemand Olaf Scholz se rend à Moscou ce mardi au lendemain d'un déplacement à Kiev.
Le ministre israélien, le premier ministre israélien Naftali Bennett, a entamé hier une visite officielle à Bahreïn, pays arabe du Golfe, jugé stratégique par l'État hébreu, pour tenter d'endiguer l'influence régionale de son grand ennemi iranien. Claire Morin-Gibourg.
C'est la première visite officielle d'un chef de gouvernement israélien à Bahreïn. Naftali Bennett doit s'entretenir aujourd'hui avec des responsables bahreïnis, dont le roi Ahmed Ben Issa Al-Khalifa. Cette visite intervient alors que les États-Unis, premier partenaire d'Israël, misent sur un nouvel accord sur le nucléaire iranien dans le cadre de pourparlers à Vienne. Monsieur Bennett s'oppose à un tel accord et a répété en janvier qu'Israël ne serait pas contraint par ce qui sera écrit dans ces accords et va maintenir une totale liberté d'action partout et à tout moment et sans limite. Proches alliés de Washington, Bahreïn et les Émirats arabes unis ont été les premières monarchies du Golfe à normaliser en septembre 2020 leurs relations avec Israël, renforçant l'intégration de l'État hébreu dans une région où l'Iran est perçu comme une menace.
Dans l'actualité américaine, le cabinet d'experts comptables de l'ancien président républicain Donald Trump a lâché son client de longue date, affirmant que des déclarations financières qu'il a fournies sur près d'une décennie n'étaient pas fiables, d'après des documents judiciaires dévoilés hier. La semaine dernière, le groupe Mazars a informé la Trump Organization dans une lettre qu'il ne travaillerait plus pour l'entreprise qui fait l'objet d'une enquête pour une possible fraude fiscale.
Le document a été présenté au tribunal par la procureure de l'État, Laetitia James, qui demandait à un juge d'obliger Donald Trump à se plier aux invitations à témoigner dans le cadre de l'enquête. Madame James a annoncé le mois dernier que son équipe avait découvert des preuves de fraude, notamment de l'évaluation frauduleuse d'actifs.
Et pour Monsieur Trump, les deux enquêtes sont motivées par des objectifs politiques. Et hier soir, dans un communiqué, la Trump Trump Organization a exprimé sa déception après la décision du groupe Mazars, mais la lettre du cabinet d'experts comptables prouve, selon elle, que le travail de Mazars a été réalisé conformément à toutes les règles et à tous les principes comptables applicables et que ses déclarations financières ne contiennent aucune anomalie importante.
La Minute Éco, Nanit Talani.
Le Mali a enregistré plusieurs défauts de paiement depuis fin janvier sur le marché de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, a annoncé l'UMOA titre gestionnaire des opérations sur le marché financier régional. L'organisation indique que Bamako n'a pas pu procéder au règlement de ses engagements financiers sur le marché des titres publics. Les sommes dues s'élèvent à 53 milliards de francs CFA. La République démocratique du Congo a mis en place un projet de 1,66 milliard de dollars pour développer ses 145 territoires, réduire les inégalités spatiales et transformer les conditions de vie des populations dans ces zones qui n'ont pas accès aux infrastructures ni services sociaux de base. Le programme sera financé en grande partie par le gouvernement de Kinshasa. Chaque territoire va bénéficier en moyenne de 10 millions de dollars sur 3 exercices budgétaires. Pour terminer, Kenya Power, seul distributeur d'électricité du Kenya, veut réduire ses effectifs d'un cinquième, a déclaré le syndicat des employés de l'électricité. Kenya Power veut proposer un départ volontaire à 1962 employés et réduire sa masse salariale de 15,8 milliards de shillings, soit environ 140 millions de dollars. Le gouvernement kényan est l'actionnaire principal de cette entreprise.
Les sports à présent avec Yacouba Ouédraogo.
Bonjour à tous. La 8e de finale de la Ligue des Champions débute ce soir en Europe. Dans une affiche qui a des allures de finale avant l'heure, le sommet entre le PSG et le Real Madrid est celui des retrouvailles entre deux équipes qui se sont affrontées 3 fois depuis la saison 2015-2016. Le trio parisien Messi, Neymar, Mbappé est sous pression, car il n'a toujours pas répondu aux attentes placées en lui entre lente adaptation pour l'Argentin et longue blessure pour le Brésilien. Neymar, qui n'a pu rejouer depuis fin novembre en raison d'une entorse de la cheville gauche, est disponible. Kylian Mbappé, lui, est en forme et a fait l'objet de beaucoup de supputations sur un éventuel départ pour le Real Madrid pour son capitaine Marquinhos. Le prodige parisien reste professionnel.
Il est un gamin qui est très fort dans la tête. Il sait différencier les choses, le moment qu'il vit. Il est bien, il est en confiance. On le voit sur le terrain, comment il est. Même avec toute cette situation, il est à l'aise, il est bien. Il est content d'être avec nous sur le terrain. Alors on profite un maximum pour qu'il puisse être décisif pour nous. Après, il a ses choix à faire.
Marquinhos, défenseur du PSG. Dans l'autre match de la soirée, Manchester City se rendra sur le terrain du Sporting Portugal. Les hommes de Pep Guardiola, intraitable leader de la Premier League, ont une revanche à prendre après leur finale perdue l'an dernier devant Chelsea 1-0. L'entraîneur espagnol, qui n'a pu remporter la Ligue des Champions depuis ses années à Barcelone, vainqueur en 2009 et en 2011, court toujours après un nouveau succès dans la compétition. Avec Manchester City, face à lui, si le Sporting Portugal a fait office d'outsider, il s'appuiera sur le talent de son jeune entraîneur Ruben Amorim, 37 ans. Le Sporting Portugal court derrière son deuxième titre après son premier, remporté depuis 2002. Football toujours, le match Brésil-Argentine des qualifications pour le Mondial 2022, interrompu en septembre dernier, en raison d'un scandale sanitaire, devra être rejoué, annonce la FIFA. L'instance mondiale du football a suspendu plusieurs joueurs argentins pour 2 rencontres et infligé des amendes aux 2 nations déjà qualifiées pour le Qatar. La Fédération argentine a déclaré sa volonté de faire appel de cette décision par la voix de son président Claudio Tapia sur Twitter. Le match initialement programmé le 5 septembre dernier à Sao Paulo a été interrompu après seulement 5 minutes de jeu sur intervention des autorités sanitaires brésiliennes. 4 joueurs argentins évoluant alors en Angleterre étant accusés de violer les protocoles anti-Covid. Basketball, pour finir avec vous Idrissa, les résultats de la nuit dernière en NBA.
Quelques-uns de ces résultats, Washington et Détroit, 103 à 94, Brooklyn Nets et Sacramento, 109 à 85, Oklahoma City et New York Knicks 127-123, Chicago et San Antonio 120-109, Portland et Milwaukee, oui, Milwaukee a été battu par Portland 122-107, la Nouvelle-Orléans et Toronto 120-90.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Sedoudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Hier lundi 14 février, comme chaque année à la même date, c'était la Saint-Valentin, connue comme la fête des amoureux. Une occasion pour beaucoup de témoigner de leur affection à leur partenaire. Mais cette célébration ne rencontre pas le même engouement partout. En Afrique, par exemple, beaucoup considèrent que la Saint-Valentin est une affaire de blanc. Mohamedou Oumfa a joint à ce sujet Odile Pouan, psychopédagogue à Abidjan, en Côte d'Ivoire.
L'amour chez nous, ce n'est pas démonstratif. L'Africain n'est pas celui qui va venir montrer ses sentiments marchant en attrapant la main d'une femme en train de lui dire « je t'aime ». L'amour se manifeste par la stabilité de la famille. Alors qu'aujourd'hui, à travers tout ce que les enfants voient sur les réseaux sociaux, on a l'impression que l'amour, c'est ce qu'on voit. C'est vrai que l'amour, c'est dans les actes, dans les actions, mais pas l'éphémérité qu'on constate où on est en train de vouloir montrer la présence, alors que les sentiments ne sont pas. Parce que vous voyez la fragilité des sentiments, les séparations, comme on se rend compte, comme on divorce. L'Africain n'est pas démonstratif de ses sentiments, comme si c'était de l'exhibitionnisme sentimental, non.
Est-ce que c'est quelque chose qui est entretenu ou encouragé? Et on se rappelle quand même que jusqu'à une certaine époque, ce sont des sujets qui n'étaient pas vraiment évoqués en famille. Mais aujourd'hui, les parents qui ont grandi dans un autre contexte, avec toutes les influences, hein, les réseaux sociaux, les médias et tout cela, est-ce que vous avez l'impression qu'au niveau des familles, c'est une perception qui est en train d'évoluer?
C'est là où se trouve le problème. On a l'impression qu'il y a une évolution, non? Parler des sentiments amoureux reste encore un tabou dans les familles. On n'en parle pas. C'est pour ça que vous voyez les grossesses en milieu scolaire, les grossesses précoces. Les parents restent encore dans la même dimension que ceux qu'on a connus. Et c'est pour ça que quand on en parle aujourd'hui, on nous dit non, quand vous parlez, c'est pour libéraliser la sexualité. Quel que soit le niveau d'étude des parents, ce sujet là, dans le couple même reste un tabou et dans la famille cela reste un tabou. Les enfants vont se former ou s'informer sur les réseaux ou avec des pères qui n'ont pas les informations nécessaires à leur donner. Vous avez un simple exemple, quand un film passe et les gens sont en train de s'embrasser, on cherche la télécommande et on essaie d'éteindre la télé ou bien de zapper.
La plupart du temps, la célébration consiste en des déclarations d'amour, des cadeaux, des sorties à deux, etc. Est-ce que selon vous, ce sont des moyens qui permettent d'exprimer l'amour ou alors on le fait aussi parce qu'on voit les gens le faire?
Ce que nous constatons aujourd'hui, que ce n'est que le cadeau qui est l'expression de l'amour. Alors que nous, vous avez les paroles valorisantes qu'on peut célébrer en disant « je suis fier de t'avoir comme épouse, je suis fier de t'avoir comme compagnon ». Donc il y a des paroles qui peuvent s'aimer, tout n'est pas matériel. C'est pour ça que vous avez des personnes qui prennent un cadeau et qui le cassent pour dire « je ne veux pas de ton cadeau comme expression de l'amour, moi je veux une présence de qualité ».
C'était Odile Pouan, psychopédagogue à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Pour rester dans ce pays, et s'agissant toujours de la Saint-Valentin, la vie amoureuse des couples s'effrite de plus en plus rapidement après le mariage. Certains couples se séparent au bout d'un an de relation, souvent même juste après un mois. Aïcha Diarra, notre correspondante en Côte d'Ivoire, a tendu son micro à deux dames qui ont chacune 29 et 35 ans de vie commune avec leurs époux, afin qu'elles partagent avec nous leur expérience.
Moi, je me souviens que quand je partais me marier, ma mère souvent le disait, « Ici, c'est chez moi, monsieur, madame Soumaoro. Quand tu vas maintenant chez monsieur Bakayoko, chez toi, c'est là-bas. » Donc, n'imagine pas que quand ça va chauffer un peu, tu vas courir, venir prendre tes bagages. je vais te fermer la porte parce que je veux que tu vives complètement ton foyer, que tu t'investisses sans penser qu'il y a forcément un espace où tu pourras te réfugier sans faire d'effort. Et donc quand je partais, je me disais que je devais prouver à ma mère que je pouvais tenir, mais également rendre hommage à cet homme-là qui m'a aimé.
Tel est le résumé de sa vie de couple que Mawa Soumaoro épouse Bakayoko nous fait. Elle qui a fait ses premiers pas dans son foyer avec un avertissement très clair de sa mère. 29 ans plus tard, avec 3 enfants, elle nous donne un principe fondamental de son couple, en plus d'une bonne communication dans le foyer.
Dans mon couple, il y a un seul capitaine. C'est mon homme. À partir du moment où vous donnez la place de justement de commandeur à cet homme-là, évidemment, il vous donne également vous votre place.
En plus de lui octroyer ce caractère de chef suprême dans le foyer, Madame Koulibaly Assita épouse Gbon, qui a connu 35 ans de vie commune avec son époux avant qu'il ne décède, demande aux femmes de retirer la fidélité de l'homme de leur principe de vie.
On ne peut pas demander à un homme d'être fidèle. C'est impossible. Si tu vas sur cette base, tu feras un très bon mariage. Mais si tu dis tu vas compter tous les petites passerelles de ton mari, tu vas voir ulcère, tu as morito, c'est pas possible. Pourquoi? C'est pas forcément le mari qui va chercher, hein. Ce sont les femmes qui cherchent les maris aujourd'hui. Si ce n'est pas dans ta maison là, faut laisser. Et puis toi-même, en te comportant comme ton mari, on aura peur que tu vois les conneries qu'il fait. Il aura peur même.
En plus, il faut s'armer de beaucoup de patience pour un foyer stable.
Je suis toujours passé par la communication. Je suis toujours passé par la patience. Je me dis, on ne peut rien réussir dans la colère. Tout ce que tu fais dans la colère, c'est toujours des regrets qui viennent après.
Le mariage, c'est pour la vie, nous dit Mawa Soumaoro, épouse Bakayoko.
Il ne faut pas se marier pour la mode. Aujourd'hui, on voit tellement de beaux mariages organisés. Je dirais les wedding planners qui vous font rêver. La célébration du mariage, si ça a trop duré, c'est une semaine. Mais la vie, c'est plus long. Donc, il faut se projeter d'abord sur la longueur du mariage que sur la durée de la fête.
Une femme propre, ça garde mieux son homme, nous dit Koulibaly Assita, épouse Gbon.
Un jour, mon mari m'a dit que lui, il va partout, chez ses amis, chez ses camarades. Que de chaque fois, quand il va dans un foyer, qu'il constate qu'il y a quelque chose qui est chez lui qui n'est pas là-bas. J'ai dit comme quoi? Il dit la propriété, par exemple. Chaque chose a sa place. Que lui, il peut venir avec des amis chez moi sans me prévenir. Mais toutefois qu'il vienne, que lui n'a rien à dire. Que, mais il se sent obligé de me dire, parce que malgré les années de mariage, une fois, c'est toujours la même chose.
Aïcha Diarra, Abidjan, pour VOA Afrique.
Abidjan, Côte d'Ivoire, 99 FM, VOA Afrique, 24h sur 24.
Des milliers de Libériens ont célébré ce lundi le 200e anniversaire de l'arrivée des premiers esclaves affranchis d'Amérique pour constituer ce qui sera plus tard le Libéria. Des descendants d'anciens esclaves américains ont dirigé le Libéria jusqu'à l'assassinat en 1980 du président William Talbot lors d'un coup d'État dirigé par Samuel Doe, un sergent de l'armée qui avait alors établi un régime autoritaire. Une célébration en grande pompe qui cache mal l'histoire douloureuse et sanglante qui a ponctué la vie de ce pays, le Libéria. Abdulrahman Dia a joint à New York l'historien Mohamed Modj de Manhattanville College.
L'idée avait déjà en fait une sorte d'application en particulier durant la période révolutionnaire américaine, où des Noirs loyalistes à l'Angleterre avaient été, à la fin donc du conflit, avaient été établis au Canada, mais aussi dans une partie de Londres, dans un quartier de Londres, East London, et aussi dans un territoire africain, dans une ville africaine en fait, appelée Freetown. Donc il y avait déjà cette expérience où des Noirs américains, dans ce cas-ci, qui étaient loyaux à l'Angleterre durant la guerre d'indépendance, ont été rapatriés en Afrique. Les Noirs n'ont jamais perdu espoir d'avoir leur propre patrie. Et évidemment, ce qui vient à l'esprit, c'est de retourner là d'où ils sont venus.
Mais on sait un peu aussi que l'histoire du Libéria, l'histoire politique, hein, a été un peu mouvementée et sanglante même, surtout dans les années 80. Pourquoi? Qu'est-ce qui n'a pas marché alors que c'était présenté peut-être comme un modèle, le retour des esclaves affranchis.
Simplement parce que ceux qui sont retournés, entre guillemets, ne sont plus africains. Je mets ça entre guillemets, bien entendu. C'est la même couleur de peau, mais ils ont déjà été américanisés ou anglicisés, dépendant de la période dont on parle. Et donc, ont acquis des réflexes, des habitudes, et en particulier une religion qui faisait que c'était très différent par rapport à la population environnante. Donc, la mission civilisatrice qu'ils ont en tête, c'est ça qui va faire problème, où fondamentalement, ils pensent qu'ils sont supérieurs, que tout ce qu'ils font est positif, et en fin de compte, ils vont créer un régime où ils vont confisquer le pouvoir, tant politique, économique que social.
Aujourd'hui, on voit une certaine forme de retour aussi depuis 2 ou 3 ans, surtout avec le Ghana. Est-ce que c'est comparable à ce qu'on a vu au Libéria ou bien c'est une nouvelle forme de retour aux sources pour les Africains-Américains?
Oh, c'est très différent. Ceux qui veulent retourner, certains se présentent un peu comme des exilés politiques. Ils ne peuvent pas vivre leur vie, ils ne peuvent pas vivre leur liberté aux États-Unis à cause des barrières raciales. Donc ils vont en Afrique, il n'y aurait pas de barrières raciales pour être un peu plus libre. Donc c'est un peu le contraire ici. Deuxièmement, ils ne sont pas porteurs d'un projet de société qui prône la supériorité des valeurs de l'Occident par rapport à des valeurs africaines. En réalité, ils veulent se réinsérer dans un milieu où ils pensent qu'avec la couleur de leur peau, ils vont passer inaperçus, et avec les talents qu'ils apportent, ils vont pouvoir réussir, ils vont pouvoir aussi faire avancer la société à travers les réussites personnelles. Donc c'est complètement différent du projet libérien.
C'était le professeur Mohamed Mbodj de Manhattanville College. Au Gabon maintenant, l'heure est à la reprise progressive des activités culturelles. Les salles de spectacle du pays sont restées vides pendant 2 ans en raison de la pandémie de coronavirus. Tout au long de ce mois de février, Libreville abrite la 2e édition du festival Black History Arts. L'événement prévoit des ateliers sur l'éducation, le chant, la danse urbaine et les conférences débats sur la culture noire. Reportage de notre correspondant à Libreville, Ismaël Obiangze.
Selon les promoteurs de ce rendez-vous culturel, la 2e édition du festival Black History Art propose une réflexion sur la place de l'art et de la culture noire pour contribuer au développement du patrimoine gabonais. Malvina Leslie Nyanzé est coordinatrice du festival Black History Art.
Nous sommes dans une société où on n'a plus d'identité, surtout par rapport à notre histoire qui est liée à la colonisation, à l'esclavage. Nous pensons que notre identité culturelle a été impactée par toutes ces choses, donc le festival a pour intérêt de se réapproprier notre culture noire.
Ce festival est aussi une invitation au partage du savoir artistique avec des ateliers dont celui qui passe en revue les grands acteurs de l'histoire du slam, comme Marquilly Smith, Don Lupiano, artiste, auteur, compositeur et interprète.
Donc bien avant Marquilly Smith, le slam s'est déclamé déjà avec les mouvements de la ségrégation. Donc, à cet instant-là que Marquilly Smith a fait ses tours dans ces rues-là, et il a vu la performance de certains poètes, et il a pu maintenant la canaliser, en faire de ça l'art disciplinaire qu'on appelle aujourd'hui le slam.
En dehors des slameurs appelés aussi les acrobates de la rime, le site de commémoration de la culture noire accueille d'autres acteurs culturels de la capitale gabonaise. Corim King est un artiste peintre très engagé dans la préservation de l'environnement.
Tant petit, j'étais au contact de l'histoire de Koulou, la tortue et la panthère. Et aujourd'hui, ces animaux sont encore dans la zone rouge. Et moi, en tant qu'artiste, c'était mon devoir de mettre assis la table de façon artistique pour qu'il ne puisse pas disparaître.
Carrefour éducatif, le festival Black History Art a pour mission d'aider la jeunesse du pays à se questionner sur l'art et son histoire. La marraine de l'événement est presque éblouie. par son organisation. Justine Nita écrivait.
C'est-à-dire, on ne peut rien sans formation. Ici, il est question d'initier les jeunes à l'éducation artistique, comment créer. On leur donne les armes, les outils pour pouvoir participer à la production.
Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde Aujourd'hui VOA Afrique. Merci de l'avoir suivi. Au micro, Idrissa Sedoudia et Jacques Aristide, à la mise en onde Lionel Gahima et à la console Kelvin Fowler. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.